Alléluia. Effectivement, il y a de la douceur ici. Et je vais commencer par vous dire que j'ai vécu une petite expérience cette semaine. Le jour où on a bougé deux lave-linges, je me suis fait une petite douleur au dos. Et puis, du coup, ça m'a fait penser à Jacob, que Dieu a touché à sa hanche pour le rendre faible. Pour que Dieu se glorifie au travers de lui. En fait, ce matin, je louais, puis il y avait une petite douleur qui était là. Je dis, oh Seigneur, je t'aime. Et j'ai le sentiment que le Seigneur veut nous amener dans des circonstances de faiblesse pour qu'on soit plus attentif à lui. Pour qu'on soit plus ouvert à ce qu'il a à nous dire. Quand on est dans nos forces, sa faiblesse, sa force est faible en nous. Quand nous sommes, nous, faibles, il est plus fort. C'est juste une illustration de ce que Dieu veut faire. Mon thème ce matin, c'est de puiser notre force en lui. Apprendre à puiser nos forces en lui. L'été est une période où on peut être épuisé. On peut vivre un épuisement physique, on peut vivre un épuisement psychologique, on appelle ça d'ailleurs un burn-out, émotionnel, spirituel. Et le croyant doit apprendre dans une période de sabbat à reprendre son souffle et à puiser en Dieu ses forces dans toutes les dimensions de sa vie. La Bible est remplie de textes qui m'interpellent. David dit, Moïse dit, tu es ma force. Tu es ma force, tu es ma force. Et je voudrais nous apprendre, nous arrêter à dire, ça veut dire quoi? Que Dieu est notre force. Est-ce que Dieu est ta force? Est-ce que tu peux le dire? Je reconnais que tu es la source qui me donne de l'énergie, de la puissance, réellement. Je puise en toi mon énergie. Je puise en toi ma force qui me donne de l'impact, même sur le plan spirituel. Et ce n'est pas dans mes forces naturelles. Très souvent, quand on est dans nos forces naturelles, et c'est Paul qui le dit, Dieu lui montre une leçon extraordinaire, « Ma grâce te suffit ». Si je suis avec toi, c'est suffisant. Si tu es faible, si tu travailles même à être encore plus faible, ainsi moi je me manifesterai plus avec force. Mais c'est une marche, c'est une culture, c'est un choix, c'est une posture. Je veux puiser en lui mes forces. Je vais lire, je ne sais pas, Nico, si tu peux suivre, je vais citer les versets, si tu peux les projeter. On va les lire ensemble, c'est Ésaïe 40, 28, 31. Et ça nous illustre bien mon propos ce matin. On est dans un texte que j'aime beaucoup. Dieu se présente, il dit, c'est lui qui a créé toutes choses, les cieux, la terre. Et il est rajouté de lui, c'est que Dieu ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose. Il n'est jamais épuisé. Il ne manque pas de force. Il est plein de force. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Et c'est mon sujet ce matin. Des fois même, on n'est pas forcément épuisé à 100%, mais il ne nous reste que 10%. Et on sent qu'on n'est pas loin du bout. Monique, courage. Les vacances arrivent. Mais des fois, on peut rentrer en vacances une semaine, deux semaines, trois semaines, et pour autant, on ne revient pas rechargé. On peut être rechargé physiquement, mais nous devons apprendre dans nos vacances, mais même dans nos vies, à puiser de la force en Dieu. C'est ça le sabbat, s'arrêter pour puiser de la force en Dieu, être renouvelé. Et la suite est extraordinaire. Dieu dit, il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes hommes, donc eux-mêmes, deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Ceux qui s'appuient, comptent, s'attendent à Dieu, renouvellent, trouvent des forces nouvelles. La première des clés, c'est de se confier en Dieu. La première des clés, c'est de s'appuyer sur Dieu. En fait, si j'avais le courage et j'avais pas mal au dos, je vous aurais illustré cela. Si j'ai confiance en ce pupitre, je peux monter dessus de tout mon poids. J'ai confiance qu'il est solide. Je prends le risque de monter dessus. Peut-être que vous n'avez pas confiance. Celui qui s'appuie, celui qui compte dessus, celui qui place sa force, il renouvelle ses forces. C'est-à-dire, la source de la force, tu te connectes dedans et tu retrouves des forces. C'est extraordinaire. Et en fait, je crois que si nous apprenons pas cela, nous connaîtrons l'épuisement. Ce fameux burn-out là qui est un gros risque pour même les croyants. Et moi, je crois qu'un croyant il n'y a pas de culpabilité pour ce qu'ils sont. Mais ceux qui apprennent à puiser leur force en Dieu ne tombent pas dans le burn-out. Pourquoi ? Parce qu'il y a la capacité de se connecter à lui et, d'être renouvelé, pour ne pas s'épuiser ni se fatiguer. On ne parle pas que de la dimension physique ici. Du coup, il nous faut reconnaître que notre force vient de lui. C'est la première des choses. Deutéronome 8, 17 nous dit « Quand tu seras rentré dans le pays que je te promets, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Souviens-toi, quand bien même nous tomberions dans le piège de croire que c'est par nos propres forces que nous avons acquis, Dieu nous dit, souviens-toi, considère. Choisis l'humilité et la faiblesse de dire « Ma force vient de lui. » Tout ce que nous avons à la base vient de lui. Mais on doit aller plus loin pour aller chercher comment puiser de la force. Aujourd'hui, on va aborder la force mentale, la force émotionnelle, la force de caractère et la force spirituelle. Dieu veut venir toucher ces choses très concrètement dans nos vies. Et quand on dit force dans la Bible, à chaque fois, c'est associé au courage. Ou alors, la Bible utilise la notion de courage alors qu'il est parlé de force. Par exemple, Josué, il est dit « Fortifie-toi et prends courage. » C'est une injonction. Fortifie-toi. Quand tu trouves de la force en Dieu, il y a du courage qui t'est donné. Alléluia. Quand tu trouves de la force, quand c'est Dieu qui te donne de la force, en face de n'importe quelle difficulté, parce qu'il est avec toi et que tu t'es connecté à la force des forces, tu trouves un courage pour affronter toutes les difficultés, toutes les situations. Pourquoi ? Parce que tu as conscience qu'il est là et qu'il est comme une source abondante qui te désaltère. Nous nous sommes faits finis. Dieu est infini. Et c'est un principe que Dieu établit de nous rendre dépendants de lui. Si nous sommes connectés à lui, la source est illimitée et sa force vient en nous et nous permet d'agir avec sa force, de ne pas se limiter à nos forces. Si nous sommes en communion, si nous trouvons ce que je vais vous partager ce matin et que nous le pratiquons, il y a les forces de Dieu qui vont nous être communiquées. Nous finis, dépendant de lui, on devient infini. C'est pourquoi il y a des textes bibliques qui sont extraordinaires. Paul dit « Je peux tout faire, rien ne m'est impossible. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ m'en donne la force. Donc ça, c'est une version façon Rodrigue. La version que vous connaissez certainement, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Christ me donne la force, je peux tout faire. Je suis fini, mais tout devient possible et infini pour moi. Pourquoi ? Parce que je reçois ma force de Christ. Christ me donne la force d'accomplir des choses qui par moi-même, je ne pourrais. Je peux y arriver parce que Christ est ma force. Et je prends conscience et je peux confesser, Christ est ma force. Il me donne de la force dans mon âme. Il me donne la force dans mon esprit. Il me donne la force dans mon caractère. Il me donne de la force. Il me donne la capacité d'accomplir des choses. Et nous devons grandir dans le discernement de quand c'est notre force humaine qui fait les choses. Vous savez, même dans la vie spirituelle, il y a plein de choses que nous faisons par notre propre force. Et des fois, il vaut mieux choisir. Paul il dit, quand j'ai compris ce secret, que plus c'est sa force qui agit en moi, plus Dieu se manifeste, je choisis de demeurer dans la faiblesse. Je décide moi-même, pas de me faire mal dans le sens au dos pour, mais de temps en temps de dire, là je ne peux pas faire comme d'habitude, je ne peux pas courir, je ne peux pas avoir des réflexes, je suis obligé de compter sur Dieu, d'avoir un autre mode, de passer dans le mode je m'appuie sur Dieu. Et quand on trouve la force, la source, ça fait une vraie différence. Je vais choisir l'humilité. Je vais choisir la dépendance. Je vais choisir de considérer ma finitude. Je suis limité. Mais parce que je me confie, je m'appuie et je trouve cette capacité d'aller puiser en lui, cette force, ça fait une différence. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Disons-le ensemble. Fortifie-toi. Encore une fois, fortifie-toi et prends courage. Sois fort et courageux, en fait, ça veut dire. Sois fort. Mais Dieu dit, tu vas être fort, pourquoi? Parce que je vais être avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je vais être avec toi. Et on le verra tout à l'heure dans les comment puiser. L'une des choses, c'est de simplement développer la conscience que Dieu est avec toi. Souvent, on perd courage, on perd de la force parce qu'on est intimidé. Le diable se débrouille pour nous intimider. Il rugit, il nous met des épreuves, il met des tas de choses devant nous et notre force, c'est comme si nous perdons complètement de la force. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui revient, la force qui revient parce qu'on se souvient, parce que nos esprits se disciplinent à se souvenir que Dieu est avec nous. Mais si Dieu est avec nous, mais qui donc sera contre nous? Le courage vient par la conscience. Ça, c'est une des clés. Je donne ce cadeau comme ça, juste pour commencer. Vous voyez, c'est juste pour dire, ça vient. Mais l'adoration est une clé énorme pour retrouver du courage. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos yeux se lèvent vers lui. Et c'est la parole qui dit, quand nous tournons vers lui nos regards, notre visage ne se couvre pas de honte. La honte nous épuise. Les pièges de l'ennemi nous épuisent. Mais quand nous le contemplons, notre visage ne se couvre pas d'honte, mais il est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que la joie est une force, mais c'est aussi sa présence, c'est aussi le voir dans nos esprits, le contempler. Il y a une force qui revient. C'est pourquoi l'adoration est une clé majeure pour retrouver de la force. Alors, les hommes forts de Dieu, dans la Bible, il y a Moïse qui a dit cela, « Tu es ma force ». Il vient de sortir de l'Égypte. D'accord, ils ont été délivrés, ils ont traversé la mer Rouge. Pharaon et ses cavaliers sont précipités et ils chantent un chant. Ils disent « Seigneur, tu es notre force ». Vous savez, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont délivrés. Ils ont eu foi en celui qui a combattu pour eux. Quand tu puisses ta force en Dieu, c'est lui qui combat pour toi. Ils ont réalisé, après la délivrance, « Tu es notre force, c'est toi qui as combattu, c'est toi qui as précipité Pharaon et ses chars dans la mer. C'est toi qui as combattu, c'est toi qui a livré le combat. C'est notre combat, c'était nous contre eux, mais tu t'es interposé, tu es venu dire « Je suis votre force ». Si vous me faites confiance, si vous vous appuyez sur moi, si vous vous attendez à moi réellement dans une position de faiblesse, mais choisis. Ce n'est pas une faiblesse qu'on subit, ce n'est pas une humiliation, c'est une humilité choisie. Je veux rester dans la faiblesse, je m'attends à toi avec une foi qui fait que ça te donne de l'espace et de la place pour agir, manifester ta force. Et la Bible n'arrête pas de dire, je les ai délivrés à main forte et à bras étendus. Dieu délivre à main forte et à bras. Il a délivré le peuple d'Israël ainsi et il veut le faire envers nous s'il y a la même logique de foi que Moïse qui dit, tu es ma force, je vais te laisser agir et combattre. Moïse dit cela. Mais je voudrais citer un homme qui s'appelle Caleb dans la Bible. Et il fait partie de ceux qui ont été envoyés, je fais l'histoire très courte, comme des espions dans le fameux Canaan que devait hériter Israël. Et puis ils reviennent et lui, il croit que Dieu, il a confiance que Dieu va être avec eux pour leur donner la victoire. Il place sa foi en Dieu. Et il y a une force dans ses paroles, il y a une force dans ses attitudes. Et Dieu est touché par ça. Celui-ci, il croit que je suis sa force. Et voici ce que dit Josué, 40 ans après, Josué, Caleb, 40 ans après, parce que Dieu lui dit, parce que tu as eu cette attitude, eh bien, toi seul, avec Josué, vous allez rentrer dans le pays promis, mais les autres, les 10 autres espions, ils vont mourir dans le désert, et toute cette génération vont mourir dans le désert. Mais toi, tu vas rentrer. Et voyez ce qui est dit ici dans Josué 14, 10, 11. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Alléluia. 85 ans, s'il vous plaît. Qui c'est qui a 85 ans ici, là? 85 ans et plus. Il n'y a pas? Ok. 70 ans et plus. 70 ans. Moïse, lève la main. Imaginez que vous puissiez dire, comme Caleb, qui a eu confiance en Dieu, j'ai autant de vigueur qu'à 40 ans. Ce n'est pas un rêve, ça? j'ai autant de force pour combattre. Alors ça nous paraît comme ça exceptionnel, mais moi je suis persuadé que parce qu'il a eu foi dans la force de Dieu, sa foi a permis à ce que ses muscles restent. Waouh, hallelujah. Je ne sais pas s'il faisait l'exercice, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait une technique comme ça sur le plan humain pour dire à 85 ans. Alors, il en existe hein, des robustes. Tu sais, vous savez, les hommes, là, les vrais, là, les bûcherons, là, vous voyez. 85 ans, ils ont. Mais quand même, dire à 85 ans, je suis aussi robuste. Il y a quelque chose de la foi qui permet d'aller puiser en Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et moi, je crois qu'il y a des secrets qui nous échappent sur la foi. Il y a des dimensions qu'on pourrait connaître et connecter. Si notre foi allait jusqu'à dire, même dans mes muscles, Seigneur, tu es ma force. Je le crois. Qui c'est qui ose croire ça, là? Ouais. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même dans mes muscles, à 85 ans, je vais être robuste. Alors, certainement qu'il faut aussi se discipliner. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas avoir, dire, juste, je ne fais rien, je reste devant la télé H24 et puis je vais être robuste, ça ne marche pas. Certainement, aller courir un peu et puis remuer quelques... Voilà. Aussi robuste. Mais je vous garantis que la Bible nous permet de savoir d'où lui venait cette force. Elle est physique, mais elle est d'abord spirituelle. C'est une question de foi. Et j'en ai d'autres comme ça. Exemple de David. Et là, j'aimerais que tu trouves cette référence. 1 Samuel 30, 4, 8, verset 4 à 8. Et David est pour ça excellent, extraordinaire. Il dit aussi, dans le psaume 18, « Éternel, tu es ma force ». Et dans ce psaume, ils disent « Vive l'Éternel, c'est lui qui me délivre. Je l'ai invoqué, il a fortifié mon âme. Il m'a délivré, il m'a exaucé. C'est lui ma force. Et parce qu'il est ma force, je peux me précipiter sur une troupe en armes. Une armée de 100 personnes, je me précipite sur eux et je les taille en pièces. » David. Je les taille en pièces. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par sa force qu'il fait ces choses. David a été capable de dire « Tu es ma force ». Et j'aimerais qu'à la fin de cette prédication, quand on va prier, chacun puisse dire « Tu es ma force ». Je choisis de faire de toi ma force. Je viens puiser de toi la force nécessaire. Quel que soit le domaine dans lequel je suis faible, je veux te permettre, toi, de manifester ta force. Comme David. Et là, David vit une situation terrible, comme chacun de nous pourrait vivre. Tu peux être dans un haut de ta vie, mais tu peux être dans un bas de ta vie. Dans les hauts comme dans les bas, David dit « Tu es ma force ». Et là, c'est un bas. David s'en va au combat, je vous fais l'histoire courte, et il a laissé dans un village qui s'appelle Tislag, sa femme, lui il n'avait pas d'enfant je crois à l'époque, mais tous ces hommes, ces 600 hommes ont laissé le campement sans hommes. Tous les 600 sont allés au combat, et pendant qu'ils sont au combat, eh bien, des Amalécites sont passés par là et ont tout volé, leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. Et quand il revient, et qu'il constate que leur camp a été brûlé, et qu'il n'y a plus ni femme, ni enfant, ni bien, mais ils sont effondrés. D'accord ? Comme ça peut nous arriver. Ils sont effondrés. Et le texte dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, et ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Vous voyez, ça veut dire que là, c'est l'épuisement total. C'est-à-dire, bouh, bouh, bouh. Attends, on va faire la scène, là. Pleurer un bon coup, là. Comme les Israéliens, là. Vous savez, moi quand je pleure vraiment, même devant Dieu, j'y vais, hein, vraiment, avec mes entrailles. Et je crie à Dieu, Seigneur, c'est pas possible. Vous savez, et là, il y a presque une sorte de, je sais pas moi, je sais pas ce qui se passe ici, mais imaginez 600 hommes qui pleurent, pas une minute, ni deux, cinq, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de force pour pleurer. C'est-à-dire, je suis au bout, il n'y a plus rien, je suis au bout. C'est-à-dire, ils sont épuisés de pleurs, vidé. Le texte, il est vraiment fort. David, donc il pleure, les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Jisréel, et Abigaël de Carmel, femme de Nadal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple, 600 hommes, parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Là, le texte original, le mot repris courage, c'est repris de la force. David, en face d'une situation, on ne peut pas être plus bas. C'est-à-dire, il s'est épuisé en pleurs et on parle de le lapider. On ne peut pas être plus bas, vous voyez. Il a perdu femme, les deux femmes qu'il avait, il n'avait pas d'enfant, il a tout perdu. Et au bout du bout, là, on va bientôt me lapider, Seigneur, il trouve le Seigneur, c'est extraordinaire. David trouve le Seigneur. Et la Bible nous dit, il alla puis en Dieu la force de se relever. Il est repris du courage en s'appuyant, en comptant, en se tournant, en s'attendant à Dieu. Seigneur, quelque chose doit se passer. Je suis au milieu au fond du trou, tu es là. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Là, c'est vraiment la vallée de l'ombre de la mort. Hein. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, il est au bout du bout, mais il sait s'appuyer sur Dieu pour pouvoir dire, tu es avec moi, tu vas trouver une solution. Donc, il y a un radar qui se met en route, Seigneur, help! Il crie, il s'attend, puis à un moment donné, il y a une idée qui vient. On va consulter le Seigneur. C'est extraordinaire. On va consulter le Seigneur. Parce que au fond du trou, et tu peux être au fond du trou, tu peux avoir perdu plein de choses. Tu es épuisé émotionnellement, psychiquement, spirituellement. Épuisé, tu es au bout. David nous montre un chemin. Et il reprit courage, il reprit de la force en s'appuyant sur Dieu. Et voici ce qu'il fait. La suite est suivante. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod et David à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David consulte Dieu. L'éphod, c'était un moyen. Je crois que certains pourraient aujourd'hui de temps en temps rêver de Dieu. Et si on avait l'éphod ? Pour consulter Dieu. Qu'est-ce que dans cette situation je dois faire? Et la grâce de Dieu fait que Dieu lui répond. La clé de David pour se relever, retrouver du courage, c'est de consulter Dieu et d'entendre sa voix. Et nous avons plus que les fautes, vous savez ça? On a bien plus que les fautes. On a le Saint-Esprit. Consultez le Saint-Esprit. Au fond du trou. C'est le bon moment de consulter le Saint-Esprit. Au fond, tu es épuisé. C'est le bon moment de consulter le Saint-Esprit. Poursuivrai-je ? Et là, David est dépendant de Dieu. Il dit, Seigneur, si je poursuis, est-ce que tu seras avec moi ? Et Dieu lui fait une promesse extraordinaire. Poursuis, ça c'est un. Tu les atteindras. Parce que tu sais, des fois on poursuit, on n'atteint pas. Tu les atteindras. Mais en plus de les atteindre, tu délivreras. Et David croit que Dieu va lui donner le succès et il se lève. David se lève à ce moment-là. Il est au fond du trou, il consulte Dieu. Tu trouves de la force parce que tu consultes Dieu. Si tu consultes Dieu et que tu l'entends, qu'il te fait une promesse, lâche pas la promesse. La clé pour retrouver de la force, entendre la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne de la force. Il entend la parole de Dieu. Et ça devient une promesse. Vous savez, on pourrait méditer la parole et que ça ne nous nourrisse pas. Ça a nourri David, ça lui a donné de la force pour qu'il se lève. Et il s'est levé, ça l'a nourri. Vous savez, je ne sais pas comment il était épuisé, imaginez. Il consulte de Dieu, mais il est épuisé. La Bible ne nous dit pas qu'il a mangé. Hein. Il est monté sur son cheval. Alléluia. 600 hommes, ils se mettent à poursuivre et ils disent, on va atteindre. Pourquoi ? Parce qu'une parole ou trois paroles, poursuis, tu atteindras, tu délivreras. En général, quand Dieu parle, il ne met pas des fleuritures. Vous savez, souvent, quand Dieu me parle, c'est une phrase. C'est même des petites phrases, mais qui vont nourrir mon esprit. Le Seigneur m'a parlé du jubilé, là, tout récemment. Et ça me nourrit, je médite dessus, je prie, je sais, c'est une promesse. Cette promesse est venue donner de la force à David. Il s'est levé. Et les 600 hommes se sont mis en route, et je peux vous dire, ils étaient pas des... Des majorettes, des vrais hommes. Vous voyez, c'est les guerriers qui connaissaient ce que c'était le combat. Au bout d'un moment, 200 sont épuisés, mais tellement épuisés qu'on ne peut pas continuer. 400 continue. Il retrouve les troupes. Ils combattent toute la nuit. Mais tu te dis, mais elle sort d'où cette force? Ils sont épuisés, ils se lèvent, ils courent. Il y en a 200 et complètement épuisés. Les 400 continuent, ils attrapent la troupe. Ils arrivent à atteindre la troupe. Ils combattent toute la nuit. Il y en a quelques-uns qui arrivent à échapper, mais ils récupèrent absolument tout. Les femmes, les biens, tout. À cause d'une parole. Poursuis. Tu atteindras. Tu délivreras. David fonde sa vie sur la parole. La parole a une réalité. Il s'en nourrit. Ça donne une autorité. Ça donne une force. Ouais. C'est extraordinaire. En termes de leadership, ce n'est pas des techniques là. C'est je m'appuie sur Dieu. Je compte sur lui. J'écoute Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 10, exactement la même chose. On est ici dans le Nouveau Testament et c'est Paul qui parle et il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance ». C'est la version lui second que moi je connais par cœur, mais j'ai voulu chercher d'autres versions. C'est « Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur ». Puisez votre force dans la communion avec le Seigneur. Sa présence, je vous ai dit tout à l'heure, je voudrais que vous reteniez ça. Sa présence est la source de la force, la communion de sa présence. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Deux, on vient de voir avec David, sa parole est une source de force. Sa promesse est une source de force. Il l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Il m'a promis à moi dans ma situation. Je l'ai consulté au milieu de ce que je suis en train de vivre. Et j'ai entendu sa voix. Il m'a exaucé. Et le psaume 103 dit, il a fortifié mon âme. C'est même pas mon esprit. Il est venu me rassurer. Il m'a donné de la force dans mon âme. Le courage de tenir, de continuer de m'attendre. À Dieu. De continuer de m'attendre à Dieu. Nous avons vécu il y a à peu près 3 ans, je ne me souviens plus, je ne suis pas très bon, je n'ai pas bonne mémoire, une situation de crise dans notre église ici, 3 ans, entre 3 et 4 ans. Et au milieu de cette situation de crise, je pense que c'est la situation la pire que j'ai vécue dans mon leadership. Alors, je n'avais pas 600 hommes qui cherchaient à me lapider. Mais je venais de commettre une faute. Et d'ailleurs, si on médite ce texte, David a failli aller combattre le peuple d'Israël. Parce qu'il avait fait alliance avec un homme, parce qu'il fuyait Israël. Alors, il vivait chez les Philistins. Il a fait alliance et il n'a pas dit qu'il était machin. Il était dans le mensonge, David, la vérité, parce qu'il fuyait Saül. Et peut-être même que, du coup, à cause de tout ça, ça a exposé le fait qu'on ait volé sa femme et ses enfants, vous voyez. C'est-à-dire que On pourrait l'expliquer. La Bible ne fait pas d'explication sur ça, mais on pourrait. Et moi, je commets une faute. Et je n'ai pas de difficulté aujourd'hui parce que Paul il dit, je me plais dans les faiblesses. Alors, quand il dit faiblesse, il ne parle pas de péché. Mais je me plais dans le fait d'être dans mon caractère, j'ai besoin de Dieu. Dans ma vie, j'ai besoin de Dieu. Personne ici n'est parfait pour dire, oui, non, ok, je suis arrivé. Justement, on a besoin. L'humilité, c'est accepter notre limite. Nous sommes humains, nous commettons des erreurs. Et là, dans la précipitation, on était en train de monter le dossier de l'EPSO. On nous avait fait des promesses de dons, et j'étais pressé que ce dossier aboutisse, et j'établis des reçus de promesses de dons avant que les dons nous soient donnés. Je ne sais pas si vous voyez. Par précipitation, et avec candeur, avec ce côté, vous savez, un peu naïf. Non, mais ça va arriver, j'ai la foi, vous savez, j'ai la foi. Le poteau rose a été découvert, et là, on me confronte, et c'est spirituel. On vient me confronter pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui se lève au milieu de nous pour vraiment venir déstabiliser l'autorité que Dieu m'a donnée. Et Dieu me parle. Au milieu de ça, et vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez fier, j'ai de la fierté. Et être pris en défaut, c'est difficile pour moi. D'ailleurs, je suis le seul, là, peut-être. Là, pasteur principal, pris en défaut, mais un moment d'humiliation, terrible. Donc soit tu fuis,
ou soit tu te tournes vers Dieu. Et je peux te dire, on a pleuré, j'ai pleuré, c'était dur. Et j'ai fléchi le genou. Une parole est sortie. Une parole est sortie de Lamentation 3. Il est bon pour le jeune homme de mettre sa langue dans la poussière et de s'attendre au secours de l'Éternel. Dieu me dit, attends mon secours, ne te justifie pas. Ça a duré 4 mois, j'ai attendu. Vous savez, 4 mois, c'est long. Seigneur, et les gens venaient me voir, mais Rodrigue, bouge, fais quelque chose, parce que moi je suis assez proactif, vous voyez, il y a un problème, il faut le régler. Non, non, le Seigneur m'a dit, le secours vient, le secours vient. Et au bout de 4 mois, j'avais fixé un rendez-vous avec le pasteur Bruno Picard. Je l'avais invité, mais bien avant que tout ça n'arrive. Et puis, la date arrive, 4 mois après. Et moi, je me dis, oh là là, ça va être un bon moment qu'on va vivre. Invitons-le. Et l'équipe, parce qu'on était déstabilisés. Non, 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 annule, dis-lui qu'on verra ça plus tard. Je dis, oh, écoutez, je pense que ça va nous faire du bien. Et je ne pensais pas que c'était le secours de l'Éternel. Mais il est prophète. Ah, ça va amener un souffle, ça va nous renouveler. Et je dis à l'équipe, écoutez, moi je suis prêt à assumer, parce que vous savez, venir de l'île de la Réunion, le machin, je suis prêt moi à assumer juste pour que ce soit une occasion de bénir. Ah, mais si tu es prêt à assumer, pas de problème. On l'invite, il vient, et je peux vous dire, le fameux secours, je me souviens, j'étais assis là. Première réunion, Bruno savait tout ce qui était arrivé au milieu de nous, et il nous dit, le diable avait décidé de mettre cette église par terre en 18 mois. Et il m'envoie pour dire que l'Église doit refaire alliance avec Marilène et moi. Ça a été le secours de l'Éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas nous-mêmes qui avons réglé, c'est Dieu qui a été intervenu. Vous savez, quand dans les 4 mois, tu t'appuies sur Dieu, là pour moi, c'était mon histoire. Je me suis appuyé sur une promesse que Dieu m'a faite. Je me suis attendu à cela parce que j'ai gardé le cap. Je me souviens avec Marilène, nous avons gardé le cap. Il fallait louer, on louait. Il fallait chanter, on chantait. Il fallait prêcher. Je crois n'avoir pas prêché les prédications les plus profondes dans ces 4 mois. Les prédications qui sont sorties de mon esprit parce que je comptais sur ça. À ce moment-là, Dieu, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta pensée. Puis là, il y a des choses qui jaillissaient au plus profond de moi. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à Dieu, je m'appuyais sur Dieu. Et parce que je le laisse faire, c'est une manière magistrale qui nous a sortis de cette impasse. Et comme pour David, il a restauré bien plus, je suis sorti de là bien plus fort que avant d'être rentré dans cette épreuve. Et en plus, depuis, l'EPSO est là, je crois que se développe d'une belle manière. Et je ne dis pas que c'est grâce à moi. Je veux dire, quand tu es au fond du fond, et ça a été l'épreuve des épreuves de ma vie en tant que ministère, de garder le cap, d'entendre la promesse de Dieu et de le voir se réaliser, ça vient conforter ta vie et te donner une énergie que tu ne peux pas avoir sans une parole que Dieu te dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et chacun de vous, vous êtes capable, dans ce que vous êtes en train de vivre, d'avoir une parole tellement forte que ça vous fait tenir des semaines et des mois, jusqu'à ce que le Seigneur décide, c'est le temps, je me lève et je délivre. Je me manifeste et je te fortifie. Dans ces communions, Dieu aime quand on est fragile comme ça. Pas dans le mauvais sens du terme, ce n'est pas une question identitaire. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crois que Dieu aime quand on lui dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On va prier, mais je voudrais vous donner le comment, pratiquement, pour avoir une force mentale. Parce que, en fait, dans l'épreuve comme ça, il faut avoir une force mentale. On est sur le point de te lapider, il faut avoir une force mentale. Parce que sinon, toi-même, tu te dis, écoute, au lieu qu'il me lapide, je vais me lapider moi-même. Une force mentale. Dieu nous donne une force mentale par sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, si elle devient une mentalité dans nos vies, elle nous donne une force, une capacité mentale, psychique, par des raisonnements, par la réponse qu'on va donner dans des situations difficiles, par la parole de Dieu. Si nous sommes habités par la parole de Dieu, si nos pensées sont remplies de la parole de Dieu, sa promesse, et que nous la confessons, à chaque fois que le diable, c'est dans l'épreuve que j'ai vécue, à chaque fois que le diable venait, mais ça va pas arriver, ça va partir en cacahuète, les gens vont te quitter. Des tas de paroles. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, il est écrit, mon secours arrive. Il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Le secours, j'ai étudié ce que c'était le secours dans la parole. Seigneur, la diligence, envoie la diligence. J'attends, envoie la diligence. Le secours me vient de Dieu. Alors, de le confesser à chaque fois que tu es assailli de tes pensées. Avoir un mental. Parce que c'est ça qui fait que tu es fort. Tu t'appuies sur la parole, elle est là dans ta bouche, tu la confesses et elle est appropriée. C'est-à-dire, c'est la réponse, tu sais, c'est à l'attaque. Ça vient, comme Jésus dans le désert, il vient, il dit, fais ceci, fais cela. Il est écrit à chaque fois une parole appropriée. Il est habité de la parole. Il a un mental qui fait, le diable vient l'éprouver. Il dit, il est écrit. Dieu m'a promis. Je confesse la parole. Je confesse la parole. C'est une arme. Elle est puissante. Mentale. Armez-vous, dit Pierre, 1 Pierre 4, 1. Armez-vous de la pensée de souffrir. Une pensée armée, en béton armé. Ça vient, la pensée est là, la mentalité est là, il y a un mental fort qui répond. Il y a une attaque, je réponds. Tu sais, j'ai un front dur, et dans mon front, j'ai OK, il est écrit. Il est écrit. Il y a marqué ici, Dieu est fidèle, le secours vient. Je le confesse. Il y a un mental. Vous savez, dans tout combat sportif ou tout type de combat, ce qui fait la victoire, c'est le mental. Ce qui fait qu'on est fort, c'est le mental. Ce qui fait qu'on triomphe, c'est le mental. Si tu as un mental habité par la parole de Dieu et que dans ta situation, tu sais l'utiliser de manière appropriée, l'épée de l'esprit, eh bien, du coup, tu peux résister au diable. La Bible dit, il fuit loin de toi. Alléluia. Alléluia. Résiste au diable par ta pensée. Résiste au diable par ton mental. Le mental rempli de la parole de Dieu. Armez-vous de la pensée de souffrir. Vous savez, en fait, j'étais en train de souffrir. Mon âme souffrait. Mon ego souffrait. Voilà, ça souffre, pas de problème. Mais moi, mon esprit dit, Dieu va me délivrer. Il va grandir. Dans cette époque, je me souviens d'avoir prêché, de dire, ok, peut-être que certains me mettaient sur un piédestal. Je suis tombé d'un piédestal, mais l'appel est toujours là. Le Rodrigue, là, dans son humanité, est tombé. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se lève avec un mental de fer qui est rempli du Saint-Esprit, de sa promesse. Quand c'est sa promesse et sa parole, ça fait une différence. Ça, c'est le 3. On a dit sa présence, sa parole, ta mentalité de fer. C'est-à-dire, quand tu es éprouvé, quelle est ta mentalité? Qu'est-ce qui sort de toi? Quand on presse le citron, quel est le jus qui sort? Est-ce que c'est la parole? Si c'est rempli de la mentalité de Christ et que la réponse donnée, vous savez, mettez-vous en partenariat de prière ou d'accompagnement avec des gens qui ont un mental de fer. Pas dans leur tempérament naturel, mais parce qu'ils sont habités de la parole de Dieu. Ça s'entend, ça se voit, quelqu'un qui est habité de la parole de Dieu. Et c'est approprié. Ce n'est pas une leçon qui récite sans qu'il y ait du discernement. Non. C'est rempli de la parole de Dieu. Ça s'appelle un mental. Tu discutes avec, il n'est pas là en train de se plaindre. Il n'est pas là en train de on ne va pas y arriver, c'est dur. Dès qu'il y a un truc, C'est comme ça, Josué. Fortifie-toi, prends courage. Ou Caleb, écoute, en face des difficultés, il y a des géants, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont la connexion, la force de leur parole et de leur mental vient de la conscience que Dieu est avec. Je ne suis pas intimidé. Il y a la parole qui est là. 3. Le mental fort. La force émotionnelle. Accueillir les sentiments et les émotions de Dieu. Dans Néhémie, ils sont en train de construire le temple, puis il y a un moment extraordinaire qui est là, et les gens qui pleurent et d'autres qui rient. Ils sont contents de ce que le temple est là, mais d'autres sont en train de pleurer, puis ils disent non, il faut arrêter là. Réjouissez-vous, pourquoi ? La joie de l'Éternel sera votre force. Vous savez, en fait, les croyants, pour moi, je crois, devraient être les gens les plus heureux sur terre. Quand ils se connectent à la présence du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, sa présence est joie. L'Esprit de Dieu et le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Cette joie, si nous communions avec. par la conscience de ce qu'il a fait de nous, par la conscience de ce qu'il a accompli, par la conscience de notre espérance. Il y a une joie forte, ce qui fait que le croyant habité de cette joie, d'abord ne peut pas être en burn-out, mais c'est surtout que cette joie lui donne une force, une autorité. Dans ses émotions, il y a la capacité de connecter avec cette joie. Néhémie dit, arrêtez de pleurer. Réjouissez-vous. Ok ? Pourquoi ? La joie de l'Éternel sera votre force. C'est-à-dire, vous rentrez dans quelque chose. Vous savez, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais dans cette période des 4 mois, là, quand il fallait louer le Seigneur, j'étais là. Et pourtant, je peux te dire, mon âme disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? La joie de l'Éternel, vous savez, c'est une arme qui est spirituelle. Et on a peur de plus être authentique pour dire, ah, mais là, je suis triste, donc je vais être authentique. Et puis, je ne vais pas me livrer à la joie. C'était du on-off. Tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes de te plaindre, tu rentres dans la joie et tu te livres à cette joie. Et moi, je voudrais dire un truc qu'on a expérimenté en famille. Notre fils, Benjamin, il est sorti. Ah bon, donc, il n'écoute pas mes prédications. Il est avec les enfants. Oh, il est avec les enfants. Il est avec les enfants. Non, on peut encourager Benjamin, même s'il n'est pas là. Il est avec les enfants. Mais à l'âge de peut-être 10 ans, 12 ans, je ne sais plus, plus petit, peut-être 7, 8 ans, on était dans la voiture et on disait à Benjamin, Benjamin, déclenche un fou rire. On est dans la voiture, on est 5 enfants, puis Benjamin se met à faire des grimaces, il fait ceci, il fait cela, et au bout de 2 minutes, tout le monde avait un fou rire. Et c'était une pièce, tu mets une pièce, Benjamin, allez on est prêt, déclenche un fou rire. Et il commençait, et au début on dit, ah c'était ridicule, mais il forçait la chose jusqu'à ce que, et vous savez quand ça prend, ça prend. Et c'est devenu un exercice. D'ailleurs, s'il avait été là, j'aurais lui demandé de le refaire. Mais vous savez que la joie est un choix. Parce que dans ce moment-là, tu peux dire, non, je ne rentre pas dedans. C'est une disposition intérieure. Je rentre dans la joie, je joue le jeu, ou je ne joue pas le jeu. Je choisis la joie ou je choisis. C'est un choix. C'est pour ça que Paul, il ose dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est un choix. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste dire, moi j'attends que ce soit authentique parce que ça va me tomber dessus. Non, ce n'est pas le principe biblique. Quand on lit le texte de la joie de l'Éternel sera votre force, c'est un choix. Ils sont en train de pleurer, ils disent, arrête de pleurer. Ce jour-là est un jour de joie. Donc tu arrêtes de pleurer. Mais comment on fait ça? Ce n'est pas authentique. Eh bien si, c'est un choix. Est-ce que vous me suivez là? C'est un choix. C'est un canal, tu bascules, je choisis la joie. Je choisis la joie de l'Éternel. Et quand elle est là, elle vient nous donner de la force. Le nombre de fois où quand on a ri, on a bien ri, on dit « Ah, ça fait du bien ». On a fait le plein. Et vous savez, c'est important de rire. Hein? C'est important de rire, de lâcher l'affaire. C'est une culture, c'est un choix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi ? C'est une force. Et partout il y a le salut, partout il y a l'Esprit de Dieu, partout Jésus est, il y a la joie. Mais je vous garantis, partout Jésus est, même s'il pleure un coup, c'est pour se réjouir après. Quand il ressuscite Lazare, il a pleuré, oui, il a pleuré. Mais je peux vous garantir, après il y avait de la joie. Partout il est, il transforme la tristesse en joie. La joie est une force, c'est la démonstration que le royaume de Dieu vient. Et nous devons être des sources de joie. Les chrétiens devraient être... C'est pour ça que j'adore les psaumes. Enfin, j'adore, vous comprenez. Enfin, j'aime beaucoup les psaumes. Pourquoi? La marque de les psaumes, c'est la joie. Non? Vous pouvez témoigner ça? La marque de les psaumes, c'est la joie. Et c'est pour ça que je dis, c'est une œuvre du royaume de Dieu, parce que les gens témoignent, mais en disant là-bas, ils ont la banane, ça rit tout le temps, ils accueillent avec joie. C'est la marque du royaume de Dieu. Et c'est important que, quand on a une œuvre... Tu as une œuvre, tu dis, je veux servir Dieu à l'extérieur de l'Église, il faut qu'il y ait la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. C'est une force. C'est une autorité spirituelle. S'il n'y a pas la joie, il y a un problème. Et je redis que ce n'est pas une question de tempérament. Oui, il y a des gens bout en train qui... Moi, j'en connais comme ça. Hein. Moi, je vis avec une bout en train. Marie, elle aime rire, et partout elle va, il y a du tempérament, mais il y a aussi une grâce particulière. Et pour ceux qui sont plutôt mélancoliques, tout là, choisis, fais-le avec ta personnalité, mais choisis. Ça c'est le 4. Il y en a 2, après on prie, d'accord ? La force de caractère. Vous savez qu'on peut être fort en caractère ou faible en caractère. Ce qui fait que notre caractère est fort, c'est que nous avons des pratiques et une discipline avec des habitudes identifiées. Ton caractère, il est fort parce que tu pratiques des habitudes que Jésus demande de pratiquer. Je vais développer ça. En fait, nos vies, notre caractère est composé régulièrement. Si tu pries régulièrement et que tu es connecté avec la présence de Dieu et que tu adores, cette habitude va s'imprégner en toi et va former un caractère. Notre caractère, c'est l'addition de toutes les habitudes que nous avons. Si tu as choisi la joie, que ça devient une pratique, une habitude, tu pratiques, tu te réjouis dans le Seigneur, c'est dans le Seigneur que c'est fait, tu pries dans le Seigneur, ta pensée est remplie de la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu, tu t'ouvres à sa présence, tu adores, ceci forme ton caractère. Et le caractère, c'est l'addition de toutes les habitudes. Elles ne sont pas que spirituelles, mais toutes nos habitudes. Si tu te lèves tôt, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, d'accord? Si tu te lèves tôt et que dans tes habitudes, il y a une régularité d'étudier la parole de Dieu, puis même de faire de l'exercice, tout le reste, tout ceci forme un caractère, donne de la force. Quand dans tes habitudes, il y a des principes spirituels, mais des principes de vie sains, dans un rapport à ton corps, dans un rapport à ce que tu lis, ce que tu vois, les gens que tu fréquentes, mais qu'il y a une discipline. Il y a des choix. Le fait de les pratiquer régulièrement donne une force, une autorité à ton caractère. Tu alignes et tes paroles et tes actes. Et il y a une cohérence qui vient là, ça donne une pleine autorité. Quelqu'un qui n'est pas habité par cela, par ses habitudes, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'autorité. Je pense au fils de Séva, dans la Bible, il nous est rapporté, qui viennent chasser des démons dans des personnes au nom que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne sont pas habités d'habitude. Ils ne sont pas habités du Saint-Esprit. Ils ne sont pas habités de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que quand ils parlent, le démon dit « Mais toi, tu ne m'intimides pas. Il n'y a pas de force dans ta parole. La force de la parole pour chasser un démon vient des habitudes pratiquées dans ta vie. Tu te muscles. Tu te muscles spirituellement. Tu parles en langue régulièrement. » Ça aussi, c'est un dernier point. C'est le dernier. Mais la force spirituelle vient d'un esprit qui est rempli du Saint-Esprit et qui a l'habitude de fonctionner par l'Esprit. C'est pourquoi moi je dis au minimum un serviteur de Dieu ou un chrétien, je vous défie de parler une demi-heure en langue tous les jours. Parce que ça vous édifie, ça vous rend fort. La parole de Dieu dit, celui qui parle en langue, il s'édifie. D'accord ? Il se construit, il devient fort. Paul dit, je parle en langue, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et d'ailleurs, il y a des théologiens qui disent, la puissance du ministère de Paul, l'une des clés, c'est qu'il parle en langue. Et souvent, on se retrouve faible parce qu'on n'utilise pas ce que Dieu nous donne. Tu veux être fort dans ton esprit, tu veux être fervent dans ton esprit, tu veux connecter la vie de l'esprit, parle en langue. Et si tu n'es pas encore baptisé le Saint-Esprit, ben viens tout à l'heure, on va prier pour toi. Pour que tu sois fort. Pour que tu sois fort. Mais notre caractère, je reviens à nos fils de Séva, notre autorité vient des habitudes que nous avons, tout ce que je vous ai prescrit, et de la présence de Dieu jusqu'à la mentalité, la parole, la joie, toutes ces choses sont une force qui fait que quand tu parles, ta parole a du poids. Parce que tu pratiques des habitudes que Jésus a préconisées que tu pratiques. C'est pourquoi il dit, celui qui met en pratique ce que je vous dis, il fonde sa maison sur le roc. Il a les habitudes que Jésus dit. Il fonde sa maison sur le roc. L'épreuve peut venir, les vagues peuvent venir. Tu tiens ferme, tu es fort parce que tu pratiques la parole. Tu ne fais pas que la connaître. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis là? S'il vous plaît, dites amen. Est-ce que vous entendez ce que je crois que l'Esprit dit ce matin? Pour être fort, Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois fort. Il s'attend à ce que tu aies de la force. Cette force, elle ne vient pas comme ça. Elle vient par une pratique régulière. On peut aussi prendre l'image des bodybuilders ou ceux qui font qui s'entraînent dans leur corps. L'exercice physique, dit Paul à Timothée, est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété, c'est-à-dire, il prend exactement la même image, le fait de s'entraîner, d'avoir des habitudes spirituelles. Si tu es faible, c'est que tu manques d'habitudes spirituelles. Tu ne te muscles pas assez. C'est que quand maintenant il faut manifester de la force, tu manques de force. Tu en veux? Choisis tes habitudes. Ton caractère va changer. Ton front va se durcir. Et tu vas être en position d'autorité. Bon, je finis avec une citation de Tom Marshall. Écoutez bien. Si nous refusons la peine d'un exercice physique, nous aurons à supporter la peine d'un corps faible et maladif. Si nous refusons la peine de l'étude, nous finirons par souffrir la peine de l'ignorance. Si nous évitons la peine de construire des relations, nous connaîtrons la peine de la solitude. Si nous n'acceptons pas la douleur de la discipline spirituelle, nous connaîtrons la douleur de l'échec spirituel. Tu veux être fort ? Ça passe par une discipline. Tu veux être encore plus fort ? Tu augmentes les standards de ta discipline. Paul dit, il y en a plusieurs qui courent dans les stades. Hein. Moi, je cours pour gagner la course. Je m'impose toute espèce d'abstinence. Je vais être fort. Je ne vais pas combattre en l'air. Je suis fort. J'ai des disciplines fortes. C'est ça qui fait que je suis fort. Et je laisse de la place pour que le Saint-Esprit puisse agir. Écoutez, je vais récapituler toutes ces bonnes habitudes à intégrer, puis après, ça vous dit qu'on prie ensemble ? On va prier, et je crois qu'il y a des attouchements du Saint-Esprit qui font qu'on se connecte à lui, il y a de la force qui peut être donnée. Mais ce n'est pas ça qui fait la clé que tu vas être fort dans ta vie. Ce n'est pas l'attouchement du Saint-Esprit qui va avoir lieu ici. Moi, je suis persuadé que le Saint-Esprit est un esprit de force. Et quand on prie, l'onction de Dieu communique la force. L'enjeu, c'est de savoir se connecter régulièrement jusqu'à ce que tu acquières ces habitudes que je vais répéter. Pratique de l'adoration, la présence de Dieu et la conscience qu'il est avec toi. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Et quand il parle à Gédéon, il lui dit, va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie, hein, je serai avec toi. Quand on a conscience de cela, pour moi c'est l'adoration qui nous donne la conscience que Dieu est avec nous. Ça c'est le premier. Deux, comme David, la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Que dans ta lecture biblique, ça se traduise par des promesses. À un moment donné, le Saint-Esprit, par la parole, fait jaillir des promesses qui te nourrissent, qui font une vraie différence dans ta vie et qui fait que tu t'appuies dessus au moment de la faiblesse. Au moment où tu es le plus faible, tu t'appuies sur la parole de Dieu qui te rend fort. Ça, c'est le 2. Le 3, c'est un mental. Donc, c'est des paroles, c'est une mentalité nourrie de cette même parole et qui, à chaque attaque, a une réponse appropriée. Il faut être habité de cette parole pour être fort et avoir un mental fort. Émotionnellement, la joie, ça c'est le 4. Le 5, on est sur le caractère par des disciplines à pratiquer. Et il se peut que tu saches dans ta vie les points de discipline pour que tu sois fort. Dieu veut manifester sa force par ton obéissance. J'insiste sur ce point. La discipline, c'est une question d'obéir à la parole de Dieu, de le faire régulièrement. C'est ça qui fait que ton caractère devient fort. Et enfin, la force spirituelle, c'est le parler en langue, en particulier, mais aussi, c'est Paul qui dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les hauteurs et nous emmenons les pensées captives à l'obéissance. Ça veut dire utiliser les armes. D'ailleurs, on pourrait prêcher là-dessus. Quelles sont les armes avec lesquelles ils combattent ? Il dit qu'elles ne sont pas charnelles. Mais c'est quoi ? Eh bien, pour moi, c'est facile de parler de la prière, le sang de Jésus, le nom de Jésus, l'autorité, tout ce que Dieu nous a donné pour pouvoir confronter l'ennemi et lui résister. Je propose qu'on se lève, s'il vous plaît. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Encore une fois, je suis fort. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur, ce matin, je veux parler contre toute pensée limitante qui dit « c'est pas possible pour moi », qui ne permet même pas une espérance de se lever de nouveau et de s'appuyer sur ta parole. Tous ceux qui sont touchés par le burn-out, qui sont épuisés dans leurs émotions, dans leur lutte personnelle, tu viens ce matin pour dire que c'est toi leur force. Je prie qu'il y ait une connexion. Je vous demande de vous connecter spirituellement maintenant. C'est un choix de vous ouvrir à la présence de Dieu. Je vais prier, mais vous-même soyez fervent d'esprit. Vous-même connectez-vous à la présence de Dieu. Il est là, il est avec vous. Il est votre compagnon. Rentrez dans la communion du Saint-Esprit, maintenant même. Ouais. Faites-le. Cherchez Dieu dans vos esprits et demandez-lui sa force. Demandez-lui sa force. Ouais. Demandez-lui sa force. Corps, âme, esprit, psychisme, caractère. Engagez-vous dans la marche avec Dieu pour être fort. Fort dans vos paroles, fort dans votre mentalité, fort dans vos attitudes, fort dans vos prises de position. Fort dans la résistance au diable pour le voir fuir. Soyez fort et courageux. Soyez fort.